RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne, 18h10. On est très heureux de vous retrouver pour le magazine régional avec nos stagiaires à la rédaction. Fidèle au poste, Manon Bréval est à mes côtés. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir Kylian.
Et oui, parce que Kylian est là aussi, bonsoir.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous et à toutes.
Au programme ce soir, un maire qui nous parle, Lucie Paulet, qui est maire de Balieu-les-Fimes, sera avec Jean-Pierre Benoît dans quelques instants. Il interrogera aussi Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, qui est actuellement à Rome. Dans les premières secondes de ce magazine, nous serons avec Jacques Cohen, qui reviendra sur le conflit Israël-Palestine, après avoir évoqué la victoire du Hamas la semaine dernière. Aujourd'hui, il parlera de la survie du Hamas. Et puis des rencontres, on en fera en deuxième partie d'émission, notamment avec Christian Champenois, une saison, une histoire de la ferme au festin. Et nous serons également avec Mgr Alexandre Joly, évêque de Troyes. Voilà pour le sommaire de ce 18-19, ce vendredi soir. C'est Thierry Dely qui a la mise en onde et c'est lui qui a fait le lien avec Jacques Cohen qui est avec nous par téléphone. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Et on continue de partir en Israël et en Palestine avec le conflit à Gaza. Si l'on fait une photographie cette semaine, quelles sont les nouveautés ?
Eh bien, il n'y a guère de nouveautés ou du moins de choses imprévisibles. Je vous avais dit que la situation israélienne se compliquerait inéluctablement à partir du moment où on n'évacuait pas les civils, les femmes, les enfants, les vieillards, soit en Égypte, soit en Israël. Et on en est à la vérification de ce point. L'autre élément, c'est que le Hamas, bien sûr, joue au maximum sa carte, qui est double, c'est de montrer qu'il est toujours là et de lâcher des otages plus ou moins au compte-gouttes de façon à faire durer justement le fait qu'il soit toujours là avec une trêve où les Israéliens ont cessé de le bombarder. De ce point de vue-là, la propagande se joue maintenant par l'image sur le net en faisant saluer leurs geôliers avant de les lâcher par les otages, ce qui fait inévitablement penser bien sûr au camp vitrine de Theresienstadt pour les visites de la Croix-Rouge de l'époque. Comment les choses peuvent évoluer? On est presque arrivé dans le dur, si je puis dire, c'est-à-dire que le Hamas a très astucieusement lâché des femmes et des enfants, ce qui aboutit à faire oublier qu'il a été capable d'enlever des femmes et des enfants, puisqu'on le montre relâchant les femmes et les enfants en oubliant le fait qu'il les ait capturés. Après, il va y avoir le problème des soldats, ou des hommes plutôt en âge d'être soldats, et donc là, le prix va monter, c'est-à-dire que le Hamas va exiger des Israéliens, des gens ayant du sang sur les mains pour les attentats, ou même les captifs de l'opération du 7 octobre, car Israël a quand même raflé une bonne centaine de types qui n'ont pas regagné Gaza à temps. Donc, une situation qui là va être un peu plus difficile, avec d'autre part la continuation et l'accentuation des tensions pour la société israélienne. L'une d'entre elles étant que quand on mobilise 300 000 personnes dans un pays qui est quand même beaucoup plus petit que le nôtre, ça bloque l'économie, donc ça coûte cher. Surtout qu'une grande partie sont l'arme au pied, indépendamment de l'opération sur Gaza, puisqu'ils ont été mobilisés pour tenir en respect le Hezbollah au nord ou pour d'éventuelles opérations si les choses se dégradaient encore en Cisjordanie. Donc, une situation difficile pour les Israéliens, d'autant que, comme je vous l'ai dit, l'objectif d'éradiquer le Hamas n'est possible que sur un schéma relativement simple, évacuer la population, la mettre à l'abri du Hamas, pour ensuite exterminer les combattants du Hamas. Et malheureusement, si le Hamas reste au contact de la population, eh bien, il va se dissoudre dedans, il continue à la contrôler, non pas qu'elle le soutienne considérablement, le Hamas gouverne Gaza par la terreur depuis 2006, en ayant exterminé les autres courants palestiniens, mais la population ne le lâchera pas tant qu'il y aura des hommes armés pour imposer leurs lois. Et ça, malheureusement, on ne voit pas très très bien d'issue rapide, ni d'issue tout court. Alors les Israéliens vont être obligés de se rabattre sur quelque chose de symbolique, comme d'abattre des dirigeants du Hamas à Gaza ou ailleurs. Mais tout ça conduit à une situation qui fait que l'opération du 7 octobre, malgré les massacres épouvantables de civils, malgré le pogrom, est au bénéfice du Hamas. Le résultat net sera une victoire du Hamas. Alors, il y a un autre élément qu'il faut voir, c'est que le Hamas a surtout dans cette opération gagné la Cisjordanie, c'est-à-dire gagné les Palestiniens de Cisjordanie, où on a un sondage disant que 68% d'entre eux approuvent tout le 7 octobre, massacre, viol, etc. compris. Donc ça, c'est épouvantable pour ce qui est d'envisager une cohabitation des deux populations, bien sûr. Alors, j'ai employé une expression qui n'était peut-être pas très heureuse la semaine dernière.
Ça vous a valu justement, Jacques Cohen, j'allais dire, un petit peu de remous tout cela, et vous vouliez l'expliquer.
Oui, j'ai parlé des colons, ou du moins de certains colons extrémistes qui sont pourchassés les Arabes par la force et par la peur en abattant quelques-uns, pour dire que c'était les symétriques du Hamas. Alors la grande chose qu'il faut préciser, c'est l'équilibre des deux. Ce sont des symétriques qui ne sont pas équilibrées. Je viens de parler de 68% de la population de Cisjordanie qui approuve le Hamas, qui approuve ce qu'a fait le Hamas, et ces quelques centaines d'excités représentent même pas 1% de la population israélienne. Alors le problème, c'est qu'il est toujours très difficile d'être irréprochable. D'approcher la pureté à 100%, c'est toujours plus difficile que d'être à 10-20%, comme probablement dans la société palestinienne en dehors des événements actuels. Or, pourtant, les Israéliens ont ce problème qu'il faut absolument qu'ils soient intraitables avec ces individus qui sont quelques centaines d'excités. Et il y a une divergence là-dessus dans la société israélienne. La gauche, mais qui ne représente maintenant plus un énorme poids, quoiqu'elle remonte un peu, comme le journal Haaretz, dit qu'il faut les boucler au plus vite et qu'il faut être totalement irréprochable. Le gouvernement de Netanyahou, qui s'appuie sur des religieux de droite et d'extrême droite, mais pas forcément des assassins comme ces quelques dizaines d'individus, lui considère que la priorité n'est pas de leur faire la chasse. Il suffit de les menacer et qu'ils tiendront tranquilles ou que les autres colons les obligeront à se tenir tranquilles, plutôt que de lancer une opération de ratissage en Cisjordanie, alors que l'armée israélienne, ça, elle est quand même sérieusement occupée à 36 choses ces temps-ci. J'ai plutôt tendance à penser qu'il faut être irréprochable, même si ça a un prix, et que l'image d'Israël est ternie par ces abrutis, même s'ils ne sont qu'une poignée, et qu'il faut démanteler ce groupuscule au plus vite. Voilà ce qui est, pourquoi l'expression symétrique, qui montre que c'est la même, ces individus sont la même chose que le Hamas, que ces individus, cette expression symétrique est malheureuse parce qu'ils ne représentent pas l'ensemble des colons de Cisjordanie et encore moins l'ensemble des Israéliens. Donc voilà la rectification, si je puis dire, que je voulais faire. Mais globalement, je reste hélas sur un pronostic assez pessimiste d'une victoire politique du Hamas et de sa survie.
Après cette rectification faite, professeur Jacques Cohen, il nous reste une bonne minute à passer ensemble. Une fois qu'on a fait la photographie et que l'on voit l'évolution du conflit, quelles sont les perspectives pour les prochains jours, les prochaines semaines, selon vous?
Soit il est très probable que le cessez-le-feu persiste dans des négociations beaucoup plus compliquées sur les otages militaires, c'est-à-dire sur les prisonniers. Néanmoins, il peut y avoir une rupture et une tactique israélienne de reprendre les hostilités, mais peut-être pas de la même façon que précédemment. Ils avaient défini une zone de sécurité dans la partie sud de Gaza, mais qui est relativement petite, donc qui n'est pas praticable. Et là, il s'agirait pour eux de mener des raids pour intercepter l'appareil politique du Hamas, puisque, comme je vous ai dit aussi, l'appareil militaire du Hamas est une fiction. Le Hamas dispose tout au plus de 1000 ou 2000 combattants, et encore moins maintenant, digne de ce nom. Le reste, c'est une populace armée, c'est une milice de gens qui ne vivent que parce qu'ils sont salariés du Hamas, et d'ailleurs salariés de l'Union Européenne, puisque c'est elle qui paye, c'est d'ailleurs assez déplorable. Et ces individus sont ceux qui ont mené les opérations en territoire israélien du 7 octobre contre la population civile. Donc il est très difficile de les abattre au milieu d'une population. Parce que là, il s'agit de 10 ou 20 000 personnes au milieu d'une population civile importante, autour d'un million de personnes. Donc malheureusement, c'est un objectif qui me paraît inatteignable, sauf encore une fois à commencer par vider les civils et s'engager dans une opération de destruction comme à Mossoul, à Fallujah, ou faire ce que les Américains ont fait en Irak. De ce point de vue-là, on pourrait conclure quand même sur la politique américaine qui est assez incohérente. Et il n'est pas possible de dire à la fois qu'Israël a tout à fait raison de vouloir exterminer le Hamas, et de dire que les conditions pour le faire ou les moyens pour le faire ne sont pas parfaitement adaptés. Si les Américains avaient voulu développer cette position qu'il fallait faire comme à Mossoul, eh bien il fallait qu'ils autorisent ou qu'ils négocient, soit avec les Israéliens, soit surtout avec les Égyptiens, d'accueillir la population civile le temps de massacrer ceux qui ne le sont pas et qui sont de tristes individus.
Merci, professeur Jacques Cohen, et on vous dit à la semaine prochaine.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Aux alentours de 18h20, dans le magazine régional, tous les soirs, du lundi au vendredi, c'est le rendez-vous de Jean-Pierre Benoît qui reçoit un maire. Aujourd'hui, c'est Lucie Paulet, maire de Balieu-les-Fimes, qui est notre invitée.
Bonjour Madame la maire, bonjour Lucie Paulet.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous de mieux connaître votre commune et de mieux vous connaître aussi puisque vous êtes la maire de Balieu-les-Fimes. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon un peu générale votre commune, sa situation géographique, le nombre d'habitants de Balieu-les-Fimes?
Oui, donc la commune de Balieu-les-Fimes est située à l'ouest du Grand Reims, en limite du département de l'Aisne. La commune est voisine des communes de Glennes, Romain, Courlandon et Fimes. Les habitants de Balieu-les-Fimes se nomment les Bailleutins et les Bailleutines et est composé d'environ 350 habitants.
Ces habitants, on les reverra tout à l'heure, mais quel type ce sont des gens en retraite? Il y a des jeunes qui s'installent. Avec le Covid, on sait qu'il y a des gens qui aiment bien aller dans des belles communes pas trop trop loin de Reims, à la campagne. Quels sont ces habitants de Balieu-les-Fimes aujourd'hui, Madame Paulet?
Alors effectivement, la population se renouvelle avec la création d'un lotissement en 2012, donc beaucoup de jeunes couples avec enfants, mais on a également nos anciens qu'on n'oublie pas. Et...
Il y a des retraités, il y a des personnes plus âgées qui sont aussi à Balieu-les-Fimes, hein, comme dans toutes les communes. Et vous, vous êtes maire depuis combien de temps? C'est assez récent finalement.
Depuis 2020, oui.
Depuis 2020. Et vous avez toujours été intéressé par la vie associative? Vous étiez peut-être avant conseillère municipale. Comment c'est arrivé? C'était peut-être, comme on dit aujourd'hui, un peu dans votre ADN?
Effectivement. J'ai été élue pour la première fois en 2014 en tant que conseillère municipale et en 2016 en tant qu'adjointe au maire jusqu'en 2020. Et ensuite, je me suis présentée en tant que maire en 2020.
Alors, c'est vrai que, bon, votre commune, on vient de la caractériser très, très rapidement, les habitants. On dit aussi que le maire, il est souvent, très, très souvent sollicité, mais que c'est, tous les élus disent, c'est l'une des missions les plus proches, celle de maire, par rapport à ceux qui sont députés ou conseillers départemental ou régional. Le maire, on le connaît, le maire. On vous connaît dans Balieu-les-Fimes. Hein.
Alors effectivement, les anciens me connaissent puisque j'ai grandi à Bayeux. Après, les nouveaux, ils ne viennent pas forcément se présenter en mairie. Donc voilà, ils peuvent me croiser sans pour autant savoir qui je suis. Mais enfin, en général, je vais me présenter à eux voilà, pour faire connaissance. Et on fait le Noël des enfants dans l'église. Donc pour les nouveaux qui ont des enfants, au moins ça permet de présenter tout le conseil municipal.
C'est aussi un moyen de faire connaissance. Les enfants, c'est un bon moyen aussi hein, de faire
voilà,
connaissance.
Voilà, oui.
Donc, je vous ai interrompu, il y a Noël, il y a des activités qui permettent de temps en temps, quand même dans l'année, de rassembler les habitants de Balieu-les-Fimes.
Alors, effectivement, on n'a plus de comité des fêtes actuellement et le volontariat disparaît malheureusement. Les gens n'ont plus le temps puisqu'ils travaillent, ils ont leur vie de famille.
Bien sûr.
Mais nous, on organise quand même les cérémonies donc du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre. On fait Halloween et donc le Noël des enfants et des anciens. Voilà.
Alors, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maires que nous avons tous les jours qui nous disent... Alors, parfois, il y a des esprits chagrins hein, qui sont toujours... Bon, c'est vrai, c'est partout pareil. Et puis, il y en a d'autres qui sont contents. Alors, il faut quand même que vous fassiez preuve de diplomatie.
Oui, alors les problèmes de voisinage, voilà, comme on dit, c'est pas vraiment à la mairie de régler ces litiges. Mais après, on est là, entre guillemets, pour arrondir les angles et faire en sorte que ça se passe pour le mieux et aussi bien l'un comme l'autre puissent trouver un accord et vivre ensemble, on va dire.
Alors, est-ce que vous avez, à Balieu-les-Fimes, quelques projets en cours, à court terme, à moyen terme ou même peut-être à plus long terme?
Alors le projet le plus important sur la commune, c'est les travaux de voirie et notamment la rue principale. Donc on va commencer par la rue qui borde la mairie en fait, hein, qui est quand même assez grande, la rue de Lorraine. mais qui est scindée en fait en deux parties, une partie route départementale et une partie communale. Donc en 2023-24, ça va être le Grand Reims qui va œuvrer sur la partie communale. Et donc ensuite, nous, pour 2025-26, on va faire la partie départementale, avec les aides financières du département, du Grand Reims, de la région et de l'État.
Alors c'est vrai qu'on dit toujours le maire, on le connaît et tout ça, mais il est quand même encore le patron ou la patronne dans sa commune, le maire ou la maire.
Ah bon, on essaie de l'être, hein, on essaie de faire respecter la réglementation en vigueur, ce n'est pas toujours simple. Les gens en plus ont atteint un niveau d'exigence assez élevé, là, hein, dernièrement, je le constate avec certaines personnes qui arrivent à la campagne et qui pensent que bah, voilà, ils veulent le même confort qu'en ville, mais voilà, la campagne et la ville, ce n'est pas du tout la même chose. On a des avantages à la campagne qu'on n'a pas en ville et inversement, hein, les inconvénients, on en a aussi à la campagne.
Avec les communautés de communes, avec le Grand Reims et tout ça, vous êtes quand même encore respecté, le maire, encore le patron chez elle, enfin dans la commune.
Alors voilà, j'essaie voilà, de me montrer auprès du Grand Reims, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que le Grand Reims, c'est quand même une communauté de communes qui regroupe 143 communes avec des populations différentes. Et bon, on essaie de par le transfert de compétences de faire en sorte que voilà, on ait des travaux qui soient effectués par le Grand Reims. Et voilà, on y arrive, il faut un peu de temps parce qu'on n'est pas tout seul, et il faut en laisser aussi aux autres. Et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien avec le Grand Reims.
Alors il faut dire que évidemment c'est pas toujours facile lorsque vous êtes une mère de famille de conjuguer la vie familiale, la vie professionnelle et le fait d'être mère. C'est pas toujours facile, il faut vous organiser quoi.
Voilà, beaucoup d'organisation, savoir s'adapter aussi. Des fois on fait des choix suivant les priorités.
Vous êtes à combien de kilomètres de Reims finalement à Bailleul-les-Fismes?
25 km à peu près.
Oui, il y a quand même une petite distance. Si vous allez à Reims, vous ne pouvez pas faire l'aller-retour comme ça plusieurs fois. Hein. Mais vous avez vu arriver d'une nouvelle population, par exemple avec le Covid, il y a des gens qui font construire, non, il y a pas... Est-ce que ça arrive, ça?
Alors nous, en fait, sur Bailleul-les-Fismes, il nous reste très peu de terrain à bâtir. Hein, donc voilà, ça va être plus de la vente déjà de bâti. Et effectivement, des gens de, voilà, comme je dis, de la ville qui arrivent à la campagne et pour lesquels bah, il faut, voilà, on leur apprenne en fait la façon de vivre à la campagne. Quoi.
Et Fismes n'est pas très loin quand même, donc il y a quand même une ville avec pas mal de choses à côté, hein, pas très loin.
Oui, oui, on est à moins de 5 km de Fismes.
5 km de Fismes.
Voilà, et on a vraiment tout sur Fismes. Enfin, voilà, on n'a pas forcément d'obligation d'aller sur Reims. Franchement, Fismes, avec tous les commerces qu'on a, ça peut
vous
largement
suffire. Vous êtes bien loti, comme on dit. Oui, écoutez, oui. Lucie Paulet, on aura l'occasion de vous retrouver sur RCF. Bien entendu, vous êtes maire de Bailleul-les-Fismes. Et on a envie de vous poser la question, on la pose à chaque maire tous les jours, à midi et aux 18h20. Est-ce que vous êtes une mère heureuse?
Oui, moi je suis...
Une mère M-A-I-R-E, hein, bien sûr.
Oui, moi je suis heureuse de rendre service à la population, voilà, parce que j'ai grandi dans cette commune-là, j'aime ma commune, et voilà, aider les gens, moi c'est dans mon ADN.
Vous êtes une baillotine.
Eh oui.
Ah ben voilà, et donc pour s'occuper des baillotins, quoi de mieux que Lucie Paulet, maire de Bailleul-les-Fismes. Merci Lucie Paulet d'avoir
merci
été avec
à
nous. À bientôt.
Merci
au revoir.
Également. Au revoir.
Au revoir.
Merci Lucie Paulet, merci Jean-Pierre. 18h30 tout de suite, le journal régional. Les titres de ce vendredi 1er décembre, dimanche débutera l'Avent 2023, 21 jours qui nous rapprochent de Noël, pendant lesquels le diocèse de Reims et des Ardennes, suivi par 17 autres diocèses en France, revient avec le chemin vers Noël. Présentation. La commune marnaise de Lintes et la Fondation du patrimoine ont signé une convention de souscription afin de financer les travaux de restauration de l'église Saint-Pierre et Saint-Hubert.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ce dimanche, quatrième dimanche avant Noël, débutera le temps de l'Avent, un Avent exceptionnellement court en 2023 qui ne durera que 21 jours, longtemps vécu comme un mini carême pour se préparer à Noël comme on se prépare à Pâques. L'Avent n'est plus un temps de jeûne et d'abstinence, au contraire, dans les calendriers de l'Avent, vendus dans les commerces, le chocolat est roi, mais le diocèse de Reims et des Ardennes propose pour une sixième année consécutive aux familles de se nourrir différemment, de se nourrir spirituellement, avec le chemin vers Noël, un calendrier de l'Avent cartonné, avec des activités à réaliser pour nous conduire jusqu'à Noël en utilisant un vocabulaire simple, coloré, ludique, adapté aux enfants de 6 à 10 ans. Violaine de Caffarelli, du service communication du diocèse de Reims et des Ardennes.
Alors c'est vrai que chaque année, on essaye de se renouveler. L'année dernière, on avait des histoires qui se suivaient d'un jour en jour. Cette année, on a voulu répondre à d'autres demandes, puisque c'est aussi les lecteurs qui nous l'ont demandé. Quand on ouvre son calendrier, on ouvre une petite case et on va tomber sur un visuel de saint. Et quand on ira un peu plus loin dans les activités que propose le calendrier sous sa forme digitale, on va pouvoir découvrir non seulement la vie du saint dont on a l'illustration, mais également des recettes de cuisine, des jeux, des contes, bien sûr, des contes qui nous emmènent un petit peu dans l'univers de Noël et qui sont des contes vraiment quotidiens. On n'aura pas les histoires qui suivent, mais on aura vraiment des contes journaliers qui nous amèneront selon les jours, un petit peu jusqu'au 25 décembre.
Un calendrier que vous pouvez retrouver en ligne sur le site www.lecheminversnoel.fr ou que vous vous trouviez dans la province diocésaine et même au-delà, puisque 18 diocèses relaient cette initiative qui se vit au jour le jour. Violaine de Caffarelli.
Il y a une partie effectivement découverte du saint. Ce saint correspond au saint du jour du calendrier habituel que vous avez, même le calendrier postal, j'ai envie de dire, sur les 15 premiers jours de l'Avent. Et sur la dernière semaine, on va se rapprocher plutôt des amis de Jésus, c'est-à-dire Sainte Élisabeth, Saint Zacharie, Saint Jean-Baptiste, et puis ensuite les parents de Jésus, Marie-Joseph et même Gabriel. Voilà, donc le but, c'est d'aller découvrir ces saints plus en profondeur, et puis en même temps de bricoler, c'est-à-dire de créer. Et à chaque fois qu'il y a un bricolage, à chaque fois qu'il y a une recette de cuisine, à chaque fois qu'il y a un petit jeu, il y a toujours un lien avec le saint du jour. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de petite pastorale qui est faite, et quand vous allez cuisiner un gâteau aux noix, ce sera probablement le jour de la Saint-Jean-Baptiste, parce qu'il a traversé le désert, et qu'on s'imagine que peut-être au travers du miel qu'ils ont pu trouver dans le désert, ou de cette nourriture très, très pauvre qu'ils pouvaient trouver. Donc il y a toujours un petit lien pastoral, mais il y a aussi la découverte de la Sainte-Lucie, les contes de la Saint-Nicolas, les traditions qui peuvent se vivre à droite ou à gauche au travers de ce calendrier, toujours dans l'univers de Noël, pour traverser à la fois les époques, les régions, les traditions. On va apprendre comment est née la première crèche, par exemple. C'est tout ça sous forme de petits contes, de petits jeux, de petites découvertes au quotidien.
Pour cette année 2023, 85 000 calendriers ont été distribués à travers les 18 diocèses participants. 8 500 pour le seul diocèse de Reims et des Ardennes. Première case à ouvrir dimanche, donc le 3 décembre. Votre radio RCF Reims-Ardennes se fera aussi l'intermédiaire de cette initiative sur nos ondes et sur notre site internet, avec certains jours une histoire à écouter que vous retrouverez à 11h25, lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche la semaine prochaine. Mais bien évidemment, on se sera aux côtés du diocèse tout au long des trois semaines qui nous rapprochent du 25 décembre. Dans les Ardennes, les entrepreneurs ont du cœur et FLAP ont récolté près de 1300 jouets grâce à la mobilisation d'une centaine d'entreprises. Ils ont été offerts aux enfants ardennais bénéficiaires des Restos du cœur dans le but que chaque enfant ait un jouet sous le sapin le 25 décembre. Le village de l'Inde, situé près de Cézanne, a pour projet de restaurer son édifice religieux du 12e siècle, une église riche d'histoire pour le maire de la commune, Serge Varlet.
C'est une église qui est plus vieille que Notre-Dame de Paris et plus vieille que la cathédrale de Reims. Elle est de 1134 et en 2034, elle aura 890 ans. Elle n'est pas classée, mais il y a des très belles choses à l'intérieur, comme le tabernacle, comme la Sainte Vierge, un Saint-Pierre en pape. C'est unique dans le coin, il n'y en a pas. Hein. Et un petit Saint-Hubert qui date du 15e siècle.
L'église Saint-Pierre et Saint-Hubert de l'Inde, dont plusieurs mobiliers sont inscrits au tableau du patrimoine, connaît aujourd'hui de lourdes détériorations. Serge Varlet.
Principalement le beffroi et la charpente, hein, qui donne des signes de faiblesse, hein. Les poutres sablières qui supportent tout l'ensemble, il y en a plusieurs, dont trois ou quatre qui sont énormément endommagées, et l'ensemble de l'édifice risquait de s'effondrer. Bon, on a pris des mesures d'urgence en faisant une consolidation. Sans ça, je suis sûr que ça n'aurait pas été fait au jour d'aujourd'hui. Soit le beffroi s'inclinait vers la nef ou s'inclinait vers le cœur, hein. C'était l'un ou l'autre, hein.
Face à ce constat, la commune a enclenché fin 2022 des mesures d'urgence pour sécuriser l'édifice et a eu recours à un cabinet d'expertise pour un état des lieux. Un appel aux dons a été lancé avec la Fondation du patrimoine et la commune pour la sauvegarde du patrimoine culturel. Pour participer au financement du chantier, la commune espère réunir près de 20 000 euros grâce à une cagnotte en ligne lancée sur le site de la Fondation du patrimoine. 15 donateurs se sont déjà exprimés pour un montant total de 3 755 euros. Un mot de sport avec la fin des matchs de poule d'Eurocoupe féminine qui se sont joués hier soir. Une suite de résultats favorables qui permet aux Flames Carolo de terminer parmi les meilleurs troisièmes de la phase de poule et d'être repêchées en 16e de finale de l'Eurocoupe. Elles affronteront la Roche-Vendée courant décembre. Les principaux rendez-vous sportifs du week-end vous sont présentés par notre stagiaire à la rédaction, Kylian Janot.
L'agenda est bien chargé et dès ce soir, Alexis, avec du volley d'abord. À 20h, Chaumont reçoit au Palestra Tourcoing pour la 9e journée de Ligue A. Autre sport en salle, le Champagne Basket reçoit à 20h30 Rouen pour la 9e journée de Pro B à la Reims Arena. Pour les moins frileux, à 21h, au stade Auguste Delaune, Reims et Strasbourg se défieront dans le derby du Grand Est à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1. En Ligue 2, Troyes est attendu à Bordeaux, demain à 15h pour la 16e journée. S'il n'y a pas eu de nomination officielle d'un nouvel entraîneur, l'ancien coach rémois David Guillon est pressenti pour prendre place sur le banc troyen prochainement. Les principaux rendez-vous du week-end se termineront avec une nouvelle rencontre de basket dimanche à 17h30. Les Flames Carolo, 6e dont vous parliez il y a quelques instants, reçoivent Bourges, 2e pour le plus beau des tangos à l'occasion de la 9e journée de Ligue féminine de basket.
Merci Kylian. Et comme avec les trains, un stagiaire peut en cacher un autre avant de refermer ce journal. Place à la météo avec notre Miss Météo, Manon Brével. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce week-end ?
Les tendances sont au soleil pour ce week-end. Matin comme après-midi, quelques nuages seront partiellement présents, mais le soleil arrivera à prendre le dessus. Malgré le temps ensoleillé pour ce samedi, le mercure de vos thermomètres pourra descendre jusqu'à moins 3 degrés et monter au maximum à 4 degrés. Les températures du dimanche seront similaires. La température minimale sera de moins 4 degrés et montera à son apogée à 3 degrés. Nous sommes en décembre, pas en avril, mais pour autant ne vous découvrez pas d'un fil. Une douce brise accompagnera ce week-end. N'oubliez pas d'envoyer un message aux Viviane samedi et aux François-Xavier dimanche pour leur souhaiter une agréable fête. Bonne soirée.
Merci Manon, bonne soirée. On vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres tendances météo. Ce sera déjà votre dernière semaine Manon.
Et oui, je vous quitterai mais je reviendrai.
On l'espère que vous ne nous quitterez pas comme ça. Allez, ainsi se referme ce journal de 18-19 en Champagne-Ardenne. Continue.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
La suite de ce magazine régional jusqu'à 19h, c'est un plongeon pour commencer au cœur de l'authenticité avec Christelle Champenois, une passionnée qui a su transformer son amour pour la terre en une aventure unique entre les vastes champs de la ferme du Sousset à Merlot et les étals bien garnis de son magasin fermier à Frignicourt. Cette agricultrice passionnée s'engage corps et âme pour vous offrir le meilleur de son terroir, son histoire au micro de Jérôme Gorgeau.
On est à Frignicourt, aux portes de Vitry-le-François, avec Christelle Champenois. Bonjour Christelle.
Bonjour.
On est où exactement ici ?
Alors à Frignicourt, à côté de Vitry-le-François, direction Le Der.
Et ça s'appelle ?
Le magasin fermier.
De Frignicourt.
Ouais, tout simplement.
Voilà. Alors là, c'est vraiment une belle structure. Elle existe depuis combien de temps cette structure ?
3 ans.
Et là, vraiment, on rend un service assez énorme aux gens parce qu'il y avait un besoin sur cette structure, on peut dire.
Les gens sont quand même de plus en plus à la recherche de produits locaux. Et jusque-là, il y avait le petit marché quand même de Vitry-le-François. Mais là, on n'est quand même pas à côté de Vitry. On est quand même excentré de Vitry-le-François. Et on a quand même pas mal de touristes qui viennent, des étrangers. Donc il faut que je me remette à l'anglais. C'est un petit peu compliqué. Mais. Voilà, les touristes s'arrêtent et on a également beaucoup d'Aubois qui s'arrêtent parce que c'est la route pour aller sur Brienne, etc. Et donc, les gens qui travaillent, qui font la route Brienne-Vitry, vont s'arrêter, par exemple, ici.
Et la ferme du Sousset, elle est installée où ?
À Merlot. Alors, donc, à Merlot. En fait, c'est à peu près à 10 km d'ici, direction Saint-Menoux.
Et donc, sur cette ferme-là, vous proposez quoi comme produit ?
Alors, nous sommes éleveurs. Éleveurs bovins. Donc, on élève des charolaises et des blondes d'Aquitaine. Donc, c'est des vaches allaitantes, c'est-à-dire que c'est des vaches à viande. Ce sont des vaches qui sont nées à la ferme. On a nos propres taureaux. On a nos taureaux blondes d'Aquitaine et nos taureaux charolais. Hein, donc, on ne mélange pas les races. On a plus de 100 hectares de prés parce que nos vaches sont au maximum dehors. On les rentre uniquement, là, ça y est, on commence à les rentrer. On commence les vélages. On va avoir à peu près 150 vélages, pas mal de petits veaux, etc. Et ça, on veut vraiment les suivre.
C'est familial comme structure, c'est vraiment...
Oui. Ça vient des grands-parents de mon époux. Donc, c'est des éleveurs vraiment purs et durs parce que ce sont vraiment des passionnés.
Et votre époux s'appelle Champenois, je suppose.
Il s'appelle Laurent Champenois.
Donc, il était obligé d'habiter ici, quoi.
En fait, quand on épouse un éleveur, on épouse ses vaches aussi. Hein.
Alors, oui, là, dans ce sens-là, d'accord. Je fais le lien. Non, mais vous, on voit votre sourire que vous en êtes heureuse parce qu'on voit que vous avez d'enthousiasme. C'est au service du magasin, mais c'est aussi au service de l'exploitation, quoi.
Mais, donc, moi, je suis déjà fille d'agriculteur, quand même, mais. Mon père n'était pas éleveur, on était céréaliers, mais je suis quelqu'un qui aime les animaux. Et c'est vrai qu'au départ, quand je suis arrivée sur l'exploitation, j'ai dit, moi, je ne mets pas les pieds dans les animaux parce que je les aimais bien, mais de loin. Hein, et puis, au fur et à mesure...
Vous êtes fait happer, quoi.
Mais bien sûr, mais avec les animaux, voilà. C'est trop facile.
Oui, hein. Voilà. Qu'est-ce qui fait que... Alors, vous êtes au Madine-Marne. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette aventure du magasin qui a vu le jour, du magasin fermier ?
Alors, le magasin fermier a vu le jour parce que moi, je commercialisais déjà à la ferme ma viande. C'était quelque chose que je voulais faire parce que j'en avais un petit peu marre que les grandes surfaces se moquent un petit peu de nous au niveau de la commercialisation. Et j'avais essayé de travailler avec une grande surface, mais c'est pas possible du tout de travailler avec eux en direct, hein, parce qu'ils aiment bien passer par des énormes plateformes et nos vaches voyagent pendant des kilomètres. Et c'est pas ça qu'on voulait, nous. Hein. Donc on a un abattoir qui est juste à côté de chez nous, donc Bigard qui est à Vitry-le-François. Donc l'idée, c'était de les amener nous-mêmes avec notre bétaillère. Comme ça, la vache, elle est pas traumatisée. Elle a l'impression d'aller faire son petit tour en parc et puis c'est tout.
Voilà, c'est tout à fait l'esprit Madine-Marne, des gens motivés, sympas, qui se rendent service entre eux. Il y a une connexion entre Vitry-le-François ou à côté d'Étry et Épernay. Oui, c'est génial pour mettre en valeur des artisans et des producteurs de tous les endroits de la Marne.
C'est vrai.
Merci beaucoup, Christelle. À très, très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
À bientôt, au revoir.
En 3 ans, Christelle Champenois a transformé sa ferme en une véritable pépite gastronomique reliant la terre au magasin fermier avec un zèle passionné. Toutes les informations au 06 07 96 73 35.
Le 18-19 sur RCF.
Et tous les vendredis, on retrouve en alternance Mgr Éric de Moulin-Beaufort et Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. C'est le second nommé qui était en direct par téléphone depuis Rome ce matin, avec Jean-Pierre Benoît, évidemment.
Mgr Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde.
Alors il paraît qu'il fait quand même assez doux à Rome aujourd'hui, hein, 12-13 degrés, Mgr.
Exactement, 12-13 degrés. J'ai vu qu'il faisait 1 ou 2 degrés à Reims.
Oui,
je ne me plains pas.
Oui, on est à la frontière du gel dans le département des Ardennes. Alors, Monseigneur, on va rester dans notre diocèse puisque nous entrons dimanche dans le temps de l'Avent. C'est peut-être l'occasion de regarder ce qui s'est passé et les rencontres que vous avez faites la semaine dernière. Je crois que vous étiez du côté de Rillé-la-Montagne.
Oui, c'était une des préparations de l'Avent. Je suis allé distribuer des calendriers de l'Avent à l'école de Rillé-la-Montagne, Sainte-Marie. Il s'agit d'un projet diocésain où, depuis quelques années où le diocèse distribue des calendriers de l'Avent aussi avec d'autres diocèses. Je crois qu'il y a une quinzaine de diocèses qui sont impliqués et on en a distribué 8000 l'année dernière, par exemple. Ce sont des petits calendriers où, comme les calendriers de l'Avent habituels, chaque jour on ouvre une petite fenêtre, mais plutôt que de trouver des chocolats ou des bonbons, il y a une vie de saint. Et pour ceux qui veulent, avec un QR code, on se retrouve pour tous les jours à partir de cette vie de saint sur le site qui donne accès à la vie de ce saint. Donc sur le calendrier, il y a l'image du saint. Sur le site, il y a la vie de ce saint. Il y a un petit film qui donne quelques explications, des témoignages, et puis il y a une activité concrète qui est proposée aux enfants, un bricolage ou une prière.
C'est presque un calendrier, c'est une très bonne... oui. Calendrier de l'Avent un peu numérique d'une certaine façon, Monseigneur, là.
Oui, c'est vrai. Il est à la fois physique, il est beau, on peut le tenir en main et ouvrir les petites fenêtres. Et puis, en même temps, il est numérique et il donne beaucoup de richesse de contenu. Et ça permet de soutenir les familles, de soutenir les écoles qui auraient envie de le faire avec un peu plus de contenu qu'un calendrier de l'Avent traditionnel.
Monseigneur Étienne Vetteux, vous étiez donc à Rilly-la-Montagne il y a quelques jours. En ce moment, on va vous retrouver pour parler de la commission théologique à Rome. Mais en attendant, on peut regarder un peu le calendrier des jours prochains. Je crois que vous revenez pour participer à une rencontre importante ce week-end à Paris.
Oui, la première chose que je ferai en revenant de Rome, c'est d'aller à Paris, où il y a actuellement, depuis hier soir, le rassemblement des séminaristes de France. Donc 600 séminaristes de toute la France sont rassemblés pour prier ensemble, écouter des enseignements ensemble, faire un petit pèlerinage à l'intérieur de la ville, et puis une mission dans la ville. Mais bon, le plus important, en fait, c'est que c'est l'occasion pour eux de se rencontrer, de voir leur diversité, et puis de se soutenir les uns les autres.
Évidemment, parmi ces séminaristes, même s'ils ne sont pas très nombreux, il y aura des séminaristes du diocèse, forcément, quelques-uns.
Nous sommes heureux d'avoir 7 séminaristes du diocèse. 6 parmi eux seront à Paris, 4 qui sont vietnamiens. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est, parfois, on fait venir des prêtres d'autres pays. Là, il y a 4 séminaristes originaires du Vietnam qui ne viennent pas seulement une fois qu'ils sont prêtres, mais qui viennent se former en France. Comme ça, ils sont vraiment intégrés dans la culture de France et de l'Église de France. Et puis, il y a 3 séminaristes du diocèse, dont 2 qui seront là, qui ont un projet. Eux sont nés dans le diocèse de Reims et ils ont un projet de vie canoniale, c'est-à-dire, lorsqu'ils seront prêtres, de vivre ensemble, d'avoir une vie de prière ensemble, peut-être même dans un lieu fixe comme un couvent. Et pour être formés dans ce sens-là, ils ont été confiés à l'abbaye de la Grâce, qui a ce type de vie et qui a très gentiment accepté de les intégrer dans leur communauté la période de leur formation et leur permettre d'acquérir les habitudes et puis les modes de vie de la vie canoniale.
Alors, on aura le plaisir, bien sûr, d'avoir certainement des échos d'ici quelques jours avec vous, Monseigneur Étienne Vetteux. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort devrait intervenir, ainsi que le cardinal Aveline. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler, Monseigneur. Mais en ce moment, on ne peut pas passer au-delà de votre actualité. Vous êtes en direct de Rome. Vous participez en ce moment à la Commission théologique internationale. Question du néophyte. Qu'est-ce que c'est, Monseigneur, cette Commission théologique internationale?
Alors, la Commission théologique internationale est une commission fondée à la fin des années 60 par le pape Paul VI. L'idée, c'est qu'il y a un dicastère au Vatican, un des ministères du Vatican qui s'occupe de la foi. C'est ce qu'on appelle le dicastère pour la doctrine de la foi. Le pape Paul VI voulait que certains des théologiens qui travaillent avec le dicastère réfléchissent sur l'avenir. Quelles sont les questions d'avenir à explorer pour nous permettre de mieux croire, de faire face à des questions d'aujourd'hui. Tous les 5 ans, un petit groupe est nommé. Nous sommes 30. Là, cette fois-ci, le nouveau mandat, nous sommes 28 des 5 continents. Nous avons des personnes de 22 pays, j'ai compté hier. Et nous nous retrouvons 2 fois par an pour chaque quinquennat, chaque 5 ans, le pape nous demande de travailler sur 3 grands thèmes. Et les 3 thèmes de cette année, de ces années-ci, sont les questions d'anthropologie, comment la société actuelle met en question l'anthropologie chrétienne et comment l'anthropologie chrétienne peut être une réponse à des questions de la société actuelle, des questions d'écologie, théologie de l'écologie, et puis la commémoration en 2025 des 1700 ans du Concile de Nicée, donc le premier concile où l'Église a défini la foi en la Trinité et en Christ comme sauveur.
28 théologiens dans le monde, et écoutez, vous en faites partie, vous, Monseigneur Étienne Vetteux.
C'est vraiment un honneur, c'est une nomination directe du pape. Mais je dirais, plus qu'un honneur, j'ai été très frappé ces jours-ci par la qualité du travail. On travaille en petits groupes et en grands groupes, et je crois que je n'ai jamais entendu un groupe de personnes si compétentes, aussi capables de s'écouter les uns les autres, écouter les manières différentes de parler, des cultures différentes, et essayer de composer des documents ensemble. Et moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, les documents de la Commission théologique internationale étaient toujours très, très précieux. C'était des documents de base de nos études qui nous permettaient de nous repérer en théologie.
Et vous avez, on aura l'occasion d'en reparler très largement, parce que il faudrait approfondir, mais c'est assez complexe, Monseigneur. Vous avez rencontré le pape quand même ces jours-ci ?
Alors, comme c'est une commission nommée par le pape, de fait, nous avions une rencontre hier avec le Saint-Père. Bon, tout le monde parle de sa santé, et il ne pourra pas aller à la COP 28, on le sait, parce qu'il a une inflammation pulmonaire. Moi, j'ai été frappé par, effectivement, on sent que ses poumons sont très pris. Il n'a pas lu son discours, mais par contre, il était très fort, pas du tout fatigué comme on peut en avoir l'impression de temps en temps. Il a improvisé un très beau petit discours sur la place des femmes en théologie et dans l'Église.
Monseigneur, oui, il faudrait qu'on entre dans le détail. Je vous propose, même en dehors des vendredis habituels, de revenir nous parler de cette commission internationale. Merci, Monseigneur Étienne Vetteux, en direct de Rome. Et puis on vous retrouve, dès que vous êtes revenu à Reims, dans nos studios pour nous parler de tout cela.
Merci, merci, à bientôt.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et pour ces 10 dernières minutes ensemble ce soir, on continue le tour de nos diocèses avec un saut à Troyes où Monseigneur Alexandre Joly évoque l'actualité diocésaine et le travail sur le synode avec Christopher Fausten.
Monseigneur Alexandre Joly, bonjour.
Bonjour Christopher.
Vous êtes l'évêque de Troyes et délégué national à l'Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques. Merci d'être avec nous en ligne sur RCF. On prend l'habitude sur les ondes de RCF pour faire un point de situation, un point d'actualité concernant le diocèse de Troyes et concernant ce travail du Synode. On en parlera dans un court instant. Mais avant cela, Monseigneur, on va revenir sur un événement marquant quand même concernant le diocèse de Troyes, puisque le père Hubert Banco avait été ordonné prêtre du diocèse de Troyes en juin 2020. Et il a été suspendu de son ministère presbytéral. Alors, pour quelle raison, Monseigneur Joly ?
Alors, c'est une grande tristesse hein, pour tout le diocèse, pour tous ceux qui le connaissent, qui apprécient la manière dont il a pu exercer son ministère et ses années comme diacre et comme séminariste. Et en fait, c'est son choix, j'allais dire, unilatéral hein, de... Donc, comme j'ai pu le communiquer, il a rencontré une femme il y a quelques mois et quand il est venu me voir, il m'a expliqué cette difficulté qu'il rencontrait et comment l'incohérence entre ce qu'il vivait et les engagements qu'il avait pris. Et donc, il a choisi de prendre un temps de recul et a décidé donc de quitter le ministère presbytéral.
Face à ce genre de situation, est-ce que vous êtes inquiet ? À se dire que c'est quelque chose qui peut éventuellement se renouveler avec d'autres prêtres.
Je n'ai pas d'inquiétude particulière pour les autres prêtres du diocèse de Troyes, j'en ai même aucune, enfin, il n'y a pas de raison de m'inquiéter. Ce sentiment amoureux, peut-être pas bien géré, certainement pas bien géré, et puis qui a pris petit à petit de la place, bouscule l'engagement de la personne. C'est des choses qu'on retrouve dans tous les domaines de la vie. Hein. C'est vrai pour des personnes mariées, c'est vrai pour toute autre forme d'engagement. Ça pose toujours question sur la prudence, sur la force de l'engagement. Comme j'ai pu aussi l'entendre, la confiance en Dieu quand on a pris un engagement. Quand on a pris un engagement, ça ne va pas être un chemin paisible et tranquille, oui, avec le ciel bleu et puis... Et puis tout ce qui se passe, enfin, sans aucune difficulté. Il y a forcément des moments d'épreuve, il y a des moments de crise, voire même des moments de ténèbres dans des vies. Et c'est peut-être là aussi que notre foi devient encore plus forte si on s'accroche au Christ coûte que coûte, on s'accroche à la parole qu'on a donnée et on essaie de traverser les crises pour sortir dans la lumière. Et du coup, on sort certainement meurtri, et renforcé. Enfin, quand on lit dans le livre de la Genèse, Jacob qui va dans la nuit combattre avec un inconnu, en découvrant que c'est l'ange du Seigneur, donc c'est un vrai combat intérieur qu'il vit, et puis il sort de ce combat à la fois victorieux et boiteux, fragilisé. Et donc, ça veut dire que ça fait partie de nos vies. Du coup, quand je regarde les prêtres de mon diocèse, je les regarde avec beaucoup de confiance et beaucoup d'amitié. Et je pense qu'ils sont tristes du départ, vraiment très, très tristes du départ de leur frère Hubert, comme beaucoup de chrétiens. Et en même temps, on accueille le choix de ce garçon, sa décision, en lui souhaitant de bien construire ce qu'il choisit aujourd'hui de construire.
Monseigneur Alexandre Joly, évêque de Troyes, avec nous aujourd'hui sur RCF, mais aussi délégué national à l'Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques. Justement, changeons de sujet, puisqu'après le travail du Synode en octobre à Rome, vous avez organisé la semaine dernière une rencontre avec les diocésains de Troyes afin de faire un point d'étape. Alors justement, en attendant la seconde session qui aura lieu en octobre 2024, où en sommes-nous justement sur le travail du Synode, Monseigneur Joly ?
Alors c'était quand même, une excellente intuition que d'avoir décalé cette 16e assemblée du Synode des évêques en deux sessions. Et donc nous sommes entre les deux sessions, puisque comme vous venez de le dire, il y a eu celle d'octobre au dernier, et puis il y a celle d'octobre au prochain. Et en fait c'est très précieux, parce que ce premier mois a été un mois mais vraiment extraordinaire de vie d'église, d'écoute, de discernement. Nous avons mis en œuvre ce qui est promu depuis le début du synode, ce qu'on appelle la conversation dans l'Esprit Saint, qui permet de cheminer petit à petit avec un grand respect de la parole de l'autre, un grand respect aussi de ce qu'on peut percevoir spirituellement pour avancer ensemble et parvenir à nos points de convergence, tout en mettant en lumière nos questions, voir nos divergences, voir nos propositions. Et donc, il fallait certainement un temps de recul, un temps de travail intermédiaire, un temps d'approfondissement avant d'aboutir à la deuxième session qui nous permettra d'aller certainement encore plus loin dans le discernement et de présenter au pape François le fruit d'un discernement spirituel et ecclésial plus abouti, d'autant qu'il s'appuie sur cette longue réflexion, consultation, discernement qui a eu lieu dans toutes les églises particulières du monde, avec aussi des réflexions au niveau des conférences épiscopales et de ces assemblées continentales. Donc on est riche de tout ce commencement de discernement au cours ou à l'œuvre dans ce discernement de l'Assemblée du Synode des évêques.
Mais donc vous avez eu comme objectif de le transmettre à vos diocésains.
Alors ce qui était très beau ce soir-là, c'est que sans doute les uns et les autres auraient peut-être imaginé que je parle de tel ou tel point théologique pour dire où est-ce qu'on en est, où est-ce que ça va, où est-ce que ça bouge. En fait, j'ai plutôt choisi de transmettre l'expérience. Comment ça a été vécu, ce qui est inattendu, ce qui bouge, ce qui est en réflexion, mais à travers l'expérience, une expérience éclairée par une réflexion théologique de pasteur, une réflexion théologique sur le mystère de l'Église. Et en fait, ce soir-là, ça a beaucoup enthousiasmé les fidèles qui étaient présents. Je pense qu'au-delà de dire sur telle question théologique, on en est là, ou on se pose telle ou telle question, ils ont senti une Église qui bouge, qui vit et qui, finalement, fait une expérience vraiment réelle de synodalité, ce qui, du coup, est très interpellant positivement et invitant pour notre Église diocésaine dans l'Aube d'aller encore plus loin dans cette mise en œuvre de la synodalité. J'ai su comme ça que certains ont déjà choisi de réajuster certaines manières de faire pour s'inspirer de ce qu'ils avaient entendu ce soir-là et vivre quelque chose qui soit une vraie vie d'église ensemble où on se met à l'écoute de l'Esprit Saint et on essaye d'avancer, non pas en tirant dans un sens ou dans un autre, mais en se laissant pousser par ce que Dieu peut nous inspirer et vouloir aujourd'hui.
Monseigneur Alexandre Joly, avant de nous quitter, ce dimanche tiendra la messe d'action de grâce, une messe d'adieu de Monseigneur François Touvet. J'imagine que vous serez présent à la cathédrale Saint-Étienne.
Je serai présent avec grand plaisir, avec grand bonheur pour l'accompagner et rendre grâce avec toute l'église diocésaine de Châlons.
Merci beaucoup Monseigneur Alexandre Joly.
Merci Christopher.
Très bonne fin de semaine à vous.
Merci, Monseigneur Alexandre Joly. Merci, Christopher. On vous retrouve, vous aussi, avec les équipes du 18-19 en Champagne, RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, la semaine prochaine, dès lundi, 18h10, pour de nouvelles actualités en région. Passez un bon week-end, bonne entrée dans l'Avent. Le temps pour moi de remercier mes stagiaires et leur souhaiter un bon week-end également. À lundi, Manon.
À lundi.
À lundi, Kylian.
Bon week-end et à lundi.
Bonne soirée à toutes et à tous. C'était Thierry Delis à la mise en onde.